Tout le monde connaît ce récit de la Genèse. C'est le récit dit du péché originel. Mais c'est aussi le récit de l'entrée de l'homme et de la femme dans le monde que l'on connaît. Quand on pense à ce récit, on attribue la chute de l'homme à une désobéissance de l'homme à la parole de Dieu. Dieu a dit de ne pas faire, et l'homme a fait. L'homme aurait donc fait pour s'affranchir de la tutelle divine, pour prendre sa liberté. C'est pas faux. Mais je dirais que c'est une vision un peu réductrice, et surtout un peu enfantine. En fait, les raisons de la chute sont bien plus fondamentales. Car l'arbre de la connaissance du bien et du mal est bon à manger, agréable, comme les autres arbres du jardin. Écoutez ce que le récit dit sur la femme. C'est au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. On pourrait traduire pour comprendre, simplement. Il est important, là, de comprendre qu'entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tous les autres arbres du jardin, il n'y a pas de différence de nature. Ce sont tous des arbres qui portent du fruit. Et ces fruits, l'homme peut les consommer pour se nourrir, donc pour subsister. Il ne faudrait pas croire en particulier que l'arbre de la connaissance ouvrirait davantage les capacités intellectuelles de l'homme, car il s'appelle arbre de la connaissance. Non, cet arbre nourrit l'homme comme les autres arbres. C'est un arbre à fruits. Si Dieu interdit à l'homme de manger de cet arbre, ce n'est donc pas pour brider l'homme, comme on l'a pu le penser parfois, ou l'empêcher de développer ses capacités intellectuelles. En interdisant l'homme de manger le fruit de cet arbre, Dieu veut empêcher l'homme de se tromper, de se leurrer sur ce qu'est la vraie nourriture pour vivre. Dieu met Adam et sa femme devant un choix basique, mais basique, celui de choisir leur nourriture. Et ce choix va déterminer la vie dans laquelle l'homme va s'engager. Quel que soit son choix, l'homme vivra, mais il vivra pour la vie en mangeant les arbres du jardin, et il vivra pour la mort en mangeant l'arbre de la connaissance. Dieu met l'homme devant ce choix de nourriture pour la première fois dans le jardin. Mais il met l'homme devant ce choix en permanence. On l'entend par exemple dans les paroles que Dieu dit au peuple d'Israël, dans la bouche de Moïse, juste avant que le peuple n'entre dans la terre promise. Souvenez-vous, c'est dans Deutéronome 30. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu met l'homme devant un choix. Mais ce choix n'est pas simple, car dans les deux cas, l'homme continue de vivre, dans le sens où son cœur continue de battre. Donc, quand Dieu invective son peuple de choisir la vie, ce n'est pas une question de cardio. C'est un autre choix que Dieu demande de faire à son peuple. C'est dans cette mesure que ce choix est difficile. Car on peut se leurrer sur ce qu'est la vie, la vraie. Il y a une réelle ambiguïté sur le mot même de vie. Pour y voir plus clair, Revenons à notre récit de la Genèse pour en savoir un peu plus sur ce qu'est la vie selon Dieu. C'est-à-dire la vie qui fait vivre l'homme. Et pour cela, je vous propose de regarder ce qu'il se passe quand justement Adam et sa femme se nourrissent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et plusieurs choses leur arrivent. Alors que Dieu se promène le soir dans le jardin, Dieu demande à l'homme « Où es-tu ? » Il demande à l'homme « Où es-tu ? » Si Dieu demande à l'homme où il est, c'est qu'il n'est pas là où il devrait être. C'est-à-dire en face de lui. En fait, en mangeant de l'arbre de la connaissance, l'homme s'est retiré loin de la face de l'Éternel, dit le texte. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Dans le jardin, l'homme et la femme vivent du face à face avec Dieu. Tout leur vient de Dieu, la nourriture, la vie, l'être. Mais pourquoi donc l'âme, l'homme et la femme ont-ils quitté le face-à-face avec Dieu? Pourquoi donc? La réponse est simple. Ils quittent le face-à-face avec Dieu car ils découvrent leur nudité. Écoutez, il répondit au verset 10, j'ai entendu, c'est l'homme, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Vous avez remarqué que l'homme ne se cache pas parce qu'il se sent coupable d'avoir enfreint l'ordre de Dieu. C'est quand même surprenant. Il ne se cache pas pour des raisons morales. Il se cache à cause de sa nudité. En fait, savoir qu'on est nu est un signe. C'est le signe qu'on est capable de se regarder, de porter un regard sur soi. Et quand on se regarde, on ne regarde plus Dieu. L'homme se met de facto hors de la face de Dieu. C'est pour cette raison qu'il se cache, qu'il disparaît à la face de Dieu. En mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance, l'homme prend conscience qu'il est capable de se nourrir, donc de vivre en se regardant lui-même. Je vais le dire un peu différemment. En mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance, l'homme prend conscience qu'il est capable de vivre en ne comptant que sur lui-même. On le voit de façon éclatante. Quand l'homme se fabrique des bagnes, en se regardant lui-même, l'homme constate qu'il est nu, il en a honte, et il se fabrique des bagnes pour cacher sa nudité. En se regardant lui-même, l'homme devient capable de définir ce dont il a besoin et de remédier à ce besoin. L'homme devient ainsi autonome vis-à-vis de Dieu. En mangeant de l'arbre de la connaissance, l'homme montre qu'il est capable de se nourrir tout seul en maîtrisant les techniques. Plus besoin de Dieu. Et ça, c'est séduisant. Beau à voir, ne dépendre de personne que de soi. Donc, en quittant le face-à-face avec Dieu, l'homme ne meurt pas. Et en ce sens, le serpent a raison. Mais pour Dieu, l'homme est mort. Car la vie, la vraie, n'existe pour l'homme que dans ce face-à-face avec lui. Paradoxalement, l'homme meurt en prenant son autonomie. En fait, pour résumer, on pourrait dire que les arbres du jardin et l'arbre de la connaissance délimitent deux espaces. Le premier est l'espace où Dieu nourrit l'homme, donne ce dont il a besoin, dans un face-à-face avec lui. Le deuxième est l'espace où l'homme se nourrit lui-même, identifie son besoin et fabrique ce dont il a besoin. Le deuxième espace est bien sûr l'espace que nous connaissons tous. C'est celui dans lequel nous vivons, l'espace dans lequel nous sommes nés. Le premier espace est celui de Dieu. Le récit du jardin nous révèle que ces deux espaces nourrissent l'homme. Le premier pour la vie, le second pour la mort. J'ai deux remarques à faire sur ces deux espaces. Le besoin dans un espace, vous avez entendu, le besoin dans un espace n'est pas obligatoirement le besoin dans l'autre. On le voit avec les bagnes. Dans l'espace de Dieu, le besoin de faire des bagnes n'existe pas, alors que dans l'espace de l'homme, ce besoin existe. Je n'ai malheureusement pas le temps de développer cette remarque, mais elle me paraît très intéressante, car elle peut orienter notre prière pour demander à Dieu de nous révéler nos vrais besoins qui ne sont pas ceux qui nous sautent aux yeux dans le deuxième espace. Deuxième remarque, l'homme penche en permanence vers le deuxième espace. Je ne vous apprends rien. Vous me direz, ben oui, hein, c'est normal, hein, c'est le nôtre. Le problème est que l'homme pense que c'est le seul espace viable. Même nous qui sommes là ici ce matin, on le pense. On se dit, regardez à Dieu, ne nourrit pas son homme. Il faut bien sûr avoir de l'argent. Sans argent, on ne peut pas manger. On a tellement d'exemples à citer. Et pourtant, en est-on si sûr? Et pourtant, en est-on si sûr? Il y a bien des arbres dans le premier espace, et même beaucoup plus que dans le deuxième, où il n'y en a qu'un seul. Donc, regardez à Dieu remplit bien son homme, et en abondance. Regardez la dite multiplication des pains. Jésus ne nourrit-il pas une foule entière jusqu'au rassasiement? Et il y a du reste. Que faisons-nous avec des textes comme Ésaïe 55, Jean 6 et bien d'autres encore? En fait, on n'ose pas trop s'aventurer dans le premier espace. C'est trop risqué. C'est pourtant ce que fait Jésus quand l'Esprit l'envoie au désert. C'est pourtant ce que fait Jésus quand l'Esprit l'envoie au désert et qu'il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Quand Jésus jeûne, il s'extrait du deuxième espace car il se prive d'être nourri par l'espace du monde, par la technique, l'agriculture, la science. Son désir est d'être nourri par Dieu dans le même face-à-face qui a nourri l'homme dans le jardin d'Éden. Cela peut paraître étrange, mes chers amis, mais il y a une vraie similitude entre le jardin d'Éden du commencement et le désert dans lequel se trouve Jésus. Comment ça? Regardez pour le deuxième espace. Le premier espace est effectivement un désert, car vide de tous les outils du deuxième espace, vide de la technique. aucun des outils du deuxième espace ne sert dans le premier espace. Nous l'avons vu. Cela amène à dire que le désert est l'endroit par excellence. Je vous le dis, bien l'endroit par excellence où Dieu nous nourrit. Souvenez-vous du peuple d'Israël qui a été nourri, pas 40 jours, mais 40 ans par Dieu. Et où était le peuple à ce moment-là ? Dans le désert aussi. Nous qui habitons en permanence dans le deuxième espace, l'Éden se trouve au désert. Souvenons-nous-en. L'Éden se trouve au désert. Au bout de 40 jours, Jésus a faim. Et il est tenté par le diable. Comme l'homme et la femme ont été tentés aussi par le diable. La seule différence entre Jésus et l'humain est que Jésus ne succombe pas aux sirènes de la technique, alors que l'humain y succombe. En Éden, l'humain quitte le face-à-face avec Dieu. Dans le désert, Jésus reste dans ce face-à-face. On le voit par trois fois. Il repousse l'attaque du diable. Mais on le voit surtout à la fin, quand le texte dit « Écoutez ». Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Étonnant. Des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus reste dans le premier espace. Ce sont les anges qui viennent le nourrir. Donc, Dieu. Jésus est un exemple. Jésus est un exemple. Bon, je vous apprends rien. Mais là, on le voit. Il nous montre qu'être nourri par Dieu est possible. Ce récit nous en donne la preuve. Des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Chers amis, avec ces récits, on comprend mieux pourquoi l'Église a prévu dans son calendrier 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne pour se laisser nourrir par Dieu, comme le peuple d'Israël au désert et comme Jésus dans ce même désert. Je ne pouvais pas terminer sans dire un mot de cette prière où nous demandons expressément à Dieu de nous donner aujourd'hui notre pain quotidien. Je veux parler, bien sûr, du Notre Père. Je ne pouvais pas finir sans vous parler au moins de ça. En demandant à Dieu notre pain quotidien, ne serions-nous pas en train de demander de la nourriture venant du deuxième espace ? Car le pain, c'est un aliment transformé par l'homme, par une technique humaine. Ce serait bien un comble. Après ce que je viens de dire, la réponse est non, bien sûr. En priant le Notre Père, nous ne sommes pas en train de demander à Dieu de nous nourrir par le deuxième espace, mais bien par le premier. Et pour me justifier, je suis désolé, nous devons revenir au grec, car le mot quotidien qui qualifie le pain, et le mot grec, bon, c'est du chinois pour vous, mais c'est pas grave, epiousios, pardon. Or, écoutez bien, ça par contre c'est important, or, ce mot non seulement a un sens incertain, mais en plus n'est utilisé dans le Nouveau Testament que dans cette prière. C'est donc bien du pain, on parle bien de pain, mais qualifié par un adjectif dont on ne connaît pas vraiment le sens et propre à cette prière. Quand on fait cette demande, en fait, c'est-à-dire quand on dit la prière, en fait, on ne sait pas vraiment ce que nous demandons. Nous demandons d'être nourris, mais par un pain épiousios, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas déjà, mais transformé par la main de Dieu, comme Jésus a transformé les 5 pains du petit garçon pour nourrir une foule entière. Vous l'avez compris, ce temps du carême est le temps privilégié de se faire nourrir par Dieu en jeûnant. Que nous puissions le faire pour éprouver notre foi et renouveler notre confiance à Dieu. Amen.